Bonjour, donc moi je suis Alexandre Marlot, je suis Technical Product Owner Manager chez Datadom et je suis en charge de la vision produit et de nos solutions. Donc Datadom, c'est une solution qui lutte contre les bots, contre les attaques des méchants bots, on va dire, qui viennent récupérer vos prix sur le site internet, qui viennent peut-être vous faire des attaques pour essayer de vous faire tomber, pour que votre site soit indisponible pendant 1 heure, 10 minutes, peut-être vous demander des rançons. Et donc nous, on vient se mettre en amont de votre site web pour bloquer ces bots qui vous veulent du mal, on va dire, et pour essayer de, enfin pour bloquer ce genre d'attaque. Et donc parfois, on voit, on affiche des captcha quand on n'est pas sûr si c'est un bot ou pas, et pour que la personne passe ce captcha, le petit slider, enfin le petit slider que vous voyez, et pour aller sur un site. Et on a beaucoup de clients en France.
Alors, sur mon site web, hein, je regarde en tant qui fréquente et je vois des bots. Enfin, je vois beaucoup de bots. Je vois Googlebot, etc. Et plein d'autres qui viennent mettre à jour leurs données pour savoir ce que je mets sur mon site. Et quand il y a une actu, ils mettent un peu en avant. C'est un peu ça ?
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y a des good bots, donc des bons bots, on va dire, type Google, type Bing, qui viennent récupérer les données de vos sites pour apparaître, que vous apparaissiez en premier ou en deuxième dans Google, dans Bingbot, ainsi de suite, dans Quant. Et il y a des mauvais qui veulent récupérer des prix pour aller faire l'analyse concurrentielle, qui veulent essayer de vous détruire votre site, ça arrive régulièrement, qui veulent aussi, par exemple, sur l'achat des chaussures, les sneakers, donc les éditions limitées de chaussures. Vu qu'il s'est vendu entre 200 et 300 euros, ils veulent revendre au marché noir à peut-être 1 000 euros, 2 000 euros. Et donc, il y a des quantités de bots qui viennent essayer d'acheter ces baskets particulières pour les revendre plus cher. Et donc, nous, on est là pour qu'ils ne puissent pas le faire et que ce soit vraiment des humains qui viennent acheter les chaussures.
Et pour les places au Stade Bollard à Lens, c'est possible qu'ils...
C'est ce genre de choses-là, effectivement. Typiquement, les places de concert et les chaussures. Ouais, les chaussures, c'est comme un PlayStation 5, on a eu plusieurs, parce que c'était difficile à avoir, donc il y avait des gens qui voulaient les revendre au marché noir, pareil, les revendre au marché noir. Et donc on a bloqué pas mal de monde avec Micromania.
Donc on a compris que la sécurité, c'est un enjeu important pour la confiance des clients d'une manière générale, les utilisateurs aussi, qu'il y a beaucoup de... soit de sites frauduleux, mais aussi d'intrusions qui sont des mafias, peut-être, hein, on peut dire ça comme ça.
Oui, on lutte aussi contre des gens qui sont passés pour d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer donc, sur le dark web, donc ils vont acheter des noms d'utilisateurs et des mots de passe que les gens auront peut-être utilisés sur LinkedIn, sur d'autres sites où les données ont été piratées à une époque. Et comme les gens réutilisent souvent le même mot de passe et le même email, bah, ils vont essayer d'aller par exemple sur d'autres sites et de réutiliser le même login, password, rentrer dessus et essayer, si la carte bleue est enregistrée, bah, de passer une petite commande avec un iPhone. Mmh. Et donc on lutte aussi parce que du coup, on peut pas, les gens qui font ça, les bots, ne peuvent pas faire à la main, c'est compliqué de faire, je sais pas, 100 000, voilà. Donc du coup, ils font des bots et on protège énormément contre tout ce qui est, donc, ça s'appelle account takeover, c'est-à-dire des gens qui prennent l'identité d'autres personnes en essayant d'entrer dans des sites e-commerce avec des logins et des mots de passe volés.
Donc j'imagine qu'ils vont à la plus grande simplicité, c'est-à-dire en masse, et puis après ils voient où ils peuvent rentrer, ils ne s'embêtent pas trop avec les choses plus complexes.
Ils essayent d'aller au plus simple, effectivement, et du coup, vu que nous on est quand même assez doués pour les détecter, les bloquer, bah, du coup ils vont plutôt sur d'autres qui ne sont pas protégés par Datadom ou d'autres solutions du marché, on va dire. Mais...
Est-ce que vous pensez qu'à terme c'est un vrai danger pour les administrations, les hôpitaux ou autres, hein, voire même les banques, qu'elles se fassent pirater leurs données, mais aussi où on peut interférer sur leurs comptes. Vous pensez que c'est un scénario catastrophe plausible ou c'est de la science-fiction ?
C'est une bonne question. On a quand même beaucoup de nos clients qui sont banques, assurances, justement pour la partie sécuriser l'accès, vérifier que ce n'est pas des données qui ont été volées sur Internet, vérifier que ce n'est pas des bots qui essaient de forcer l'accès. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre de protection, parce que ça permet de limiter vraiment fortement les gens qui essayent de pirater des choses comme ça. Quoi.
Donc après, on voit aussi des dispositifs où il y a une double validation, on va dire. Hein. C'est un peu pénible pour l'usager, mais voilà, qu'est-ce qui est préférable, la sécurité ou le temps perdu ?
Alors du coup, ouais, effectivement, il y a une directive européenne, la DSP2, qui est arrivée, je pense, il y a quelques mois, qui oblige les e-commerçants à faire une double authentification si la transaction est supérieure à 30 euros, normalement. Ça permet quand même de limiter pas mal la fraude. Forcément, c'est plus compliqué pour l'utilisateur, même pour moi. Voilà, enfin, il faut aller sur l'application bancaire, valider la transaction. Mais pour l'instant, c'est encore la meilleure arme, puisque les SMS, il y a une époque où ils ont eu des SMS, c'était quand même assez. C'était possible de contourner ce système-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Je dirais que c'est quand même. C'est contraignant. D'un point de vue personnel, je trouve que c'est contraignant, mais ça aide quand même à la sécurité, quoi.
Est-ce que vous voyez des évolutions, alors on va dire positives, par exemple?
Positives, non.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins d'attaques qu'avant?
Non, il y a de plus en plus d'attaques, puisque maintenant, le marché des bots et des pirates, des hackers, c'est quand même assez industrialisé. Et vous pouvez acheter sur des sites pirates des packages pour 100 euros, 1000 euros, une attaque. Vous voulez attaquer, je sais pas, un site, je ne vais pas donner de nom, mais vous voulez un site, vous devez payer 100 ou 1000 euros, et pendant quelques heures, il va se faire attaquer, et vous mettez votre numéro de téléphone. Pas le vôtre, mais voilà. C'est de plus en plus facile à faire. Du coup, bah, les gens, ils s'en privent pas. Et ça s'est expertisé aussi. On le voit maintenant, les bots qui essaient d'attaquer ou de voler des choses. Il y a des réseaux carrément, et ils mettent en place des moyens pour contourner. Et on se bat contre eux tous les jours. C'est un peu une guerre du chef de la souris. Nous, on a une vingtaine de personnes qui ne font que ça. Analyser le trafic Internet, regarder pourquoi il est passé, pourquoi c'est pas passé, le bloquer. C'est trouver des signaux faibles pour qui diffère un vrai humain avec un bot.
Donc c'est une version moderne des tueurs à gages, on va dire.
C'est un peu ça. Ouais, si, c'est un peu une. C'est industrialisé et démocratisé avec Internet. Du coup, c'est plus facile d'avoir accès à ça. L'année dernière, on a bloqué 250 trillions de requêtes de bots. Donc c'est juste incroyable. C'est incroyable.
Pour ceux qui créent le système d'infiltration, pour résumer, ou qui les gèrent, ou voilà, ça suppose des compétences techniques. Est-ce que ce sont les mêmes qui protègent et les mêmes qui piratent?
Il y a toujours les white et les black, comme ils s'appellent dans la carte. Nous, on est obligé quand même de regarder ce que font les pirates pour comprendre comment ils font. Enfin, on s'infiltre un peu dans leur communauté, si je puis dire, pour comprendre comment ils essaient de nous contourner. Et on voit souvent des posts, même sur Twitter, sur Discord, sur des forums, en disant « Datadome, on n'arrive plus à passer parce qu'on a réussi. » Et c'est un peu une guerre, on voit du cheval de la souris, comme je disais tout à l'heure, hein, clairement.
Donc, bon, je ne vais pas dire que vous avez des marchés captifs, mais vous avez des marchés qui ont des contraintes, qui nécessitent de prendre des précautions importantes, tout ce qui est relatif à la sécurité, à la santé, peut-être même aux données personnelles.
Oui, les données personnelles, c'est un sujet qu'on voit souvent, et avec tout ce qui est données, ouais, PII, en Europe, les clients font très attention, enfin nos clients font très attention à ça, les clients de nos clients sont très attentifs à ça. Aux USA, je dirais peut-être un petit peu moins, la culture, et c'est en train d'arriver, avec le RGPD qui commence à influencer, et effectivement, récupérer les données personnelles. On bloque pas mal de bots qui essayent de récupérer des données personnelles sur les sites.
Après, on a des fantasmes, par exemple, d'où viennent les attaques? Certains disent les Russes, les Chinois, c'est vrai ou c'est n'importe quoi?
On a, sur notre dashboard, on a sorti il y a quelques mois un espèce d'écran, de dashboard en temps réel, qui montre les attaques de nos clients, d'où elles viennent. Et on voit en temps réel, avec des couleurs, si c'est fort ou pas fort. Et on voit que ça vient un peu de tout partout, c'est où les serveurs sont pas chers à acheter, où c'est plus facile de louer des serveurs, Alors, est-ce que derrière, c'était de quel pays? C'est difficile à dire. Nous, on voit que les attaques viennent un peu de partout. Les USA, parce que c'est facile d'acheter des serveurs, de louer des serveurs. Europe, on a pas mal de monde aussi. Voilà. Après, est-ce que qui achète ces serveurs-là? C'est difficile à dire.
Est-ce que c'est des petits réseaux, voilà, ou c'est des grosses mafias derrière tout ça?
Je dirais que ça dépend toujours. On a des gens qui attaquent des sites, mais pour un peu, je pense, des jeunes, voilà, essayer. Et après, il y a comme je parlais le cas des chaussures, des baskets, où c'est, je pense, des réseaux qui vraiment veulent récupérer des baskets et les revendre au marché noir. Ils sont quand même bien préparés, on va dire.
Donc avec l'informatique, avec Internet, tout s'est internationalisé. Hein. Donc le marché global, international, une entreprise même de France peut avoir des clients de partout dans le monde maintenant. Hein. Est-ce que pour vous, ça, c'est pareil que le client ou celui qui intervient sur un site comme acheteur, pas, comme achetant, hein, comme client, peu importe son origine, il n'y a pas de protection particulière?
Nous, on protège, on a 25 data centers dans le monde. Donc, en gros, peu importe l'utilisateur où il est, il sera au plus, nos data centers sont au plus proche des clients. Donc, ça nous permet d'absorber les attaques aussi quand elles sont très fortes et de répartir les attaques sur les différents data centers. Nous, d'un point de vue détection, on a un moteur global. Je dirais que, du coup, ça ne change pas grand-chose. D'un point de vue produit, technologie, on est capable de recevoir des grosses attaques au niveau mondial. Après que ça vienne de France, des États-Unis, il y a du spécifique un peu de peut-être de configuration du le site est un ouais, c'est pas forcément mais authentification peut-être en France avec justement la loi DSP2, mais non globalement c'est la même chose de protéger en France ou aux US dans notre cas.
Et donc pour ce qui est des données, bon on peut imaginer qu'avant il y avait des gens qui écrivaient, qui faisaient des fiches à la main en France du temps des administrations. Maintenant, tout est concentré en grosses quantités, des gigas, terras, enfin plus que ça, de données qui sont concentrées d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'elles sont piratables globalement ou de manière séquencée, on ne peut pas avoir l'ensemble des informations?
Bah, c'est séquencé par système d'information à chaque fois, mais on voit des failles de sécurité ou des données qui s'échappent dans le... Dark Web, mais tous les semaines. C'est-à-dire que tous les semaines, il y a des fichiers de hackers qui arrivent à pirater une base à droite à gauche ou qui récupèrent une sauvegarde qui a été mal cryptée ou qui a été mal sur Internet. Les grands de ce nom, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis plus sûr des noms, mais ça arrive tous les semaines. Il y a le site IABinPwn où vous mettez votre adresse email et vous dites combien de fois cet email-là a été piraté. Enfin, en gros, vous avez été vu dans une fuite. Et moi, je sais que mon email a été vu genre 9 fois. 10 heures, je sais que je suis sur 10 heures, je suis sur OVH, je crois. Enfin, j'ai été, voilà. Le flash aussi, et tous les semaines. Et c'est un peu un fléau. Et du coup, comme les gens réutilisent souvent les mêmes mots de passe, enfin, le même nom d'utilisateur et le mot de passe, le fléau, c'est que les pirates puissent essayer de les réutiliser sur d'autres sites. Et c'est là qu'on intervient pour essayer de le bloquer en disant bah, il était corrompu et on pense que on ne devrait pas autoriser l'accès.
Donc, pour les usagers de base, hein, on ne sait pas toujours où vont nos données. Hein. Est-ce qu'il faut le savoir, d'ailleurs, c'est la question. Mais je vois, par exemple, qu'en Chine, on ne peut pas accéder à Facebook, Google, etc. Donc, j'imagine qu'en Chine, on a pensé qu'éventuellement, les données privées des Chinois pourraient très bien être interceptées, exploitées, avec aussi des détails croustillants peut-être hein, sur du personnel politique chinois et se protéger. Est-ce que c'est important pour un pays? Comment on peut le faire?
C'est une très bonne question. Il y a effectivement le grand firewall chinois qui bloque une partie de l'Internet et des choses comme ça. Ils ne bloquent pas tout non plus, parce que nous, on est autorisés en tant que société de sécurité. On a toujours un peu peur qu'ils, d'un seul coup, se disent on va vous bloquer aussi. Mais non, je n'ai pas vraiment de réponse à la question.
Mais je veux dire, au niveau de la sécurité intérieure d'un pays, quel qu'il soit, il faut penser aussi à ça, c'est que les données restent dans le pays, parce que là, je vois, on pompe bien tout ce qui se fait en France, ça va, on sait où, c'est pas en Chine. Hein.
Ouais. Les données personnelles, ils ont une tendance à partir à l'étranger avec tous les partenaires, enfin, voilà, des choses comme ça. C'est pour ça que la RGPD aide quand même, informe le client et limite les données qui partent. On va dire limite, voilà. C'est mieux que d'autres pays, clairement.
Alors souvent, la RGPD se fait après des constats et des débordements qui nécessitent des réactions, mais entre-temps, le mal a été fait en partie.
Ouais, on a le cas avec... le mal, je ne sais pas. Google Analytics, qui est de plus en plus, qui n'est plus autorisé par la CNIL. Et la semaine dernière, ils ont rappelé une centaine de sites français en disant qu'il fallait qu'ils arrêtent d'utiliser Google Analytics parce qu'ils collectaient l'IP de la personne et donc des données personnelles et ça partait aux USA. Et du coup, c'était pas une bonne chose. Et,
Donc peut-être que ça, on peut expliquer. En fait, on peut quand on a un site web, intégré Google Analytics pour les statistiques du site.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, ça part là, vous n'êtes plus dans le cadre de la RGPD, donc il faut prendre d'autres solutions comme, je n'ai pas d'exemple, mais qui sont hébergées en France ou qui sont hébergées en Europe pour limiter ce...
C'est du bon sens, non ?
C'est du bon sens. Les États-Unis, enfin, les GAFAM, là, Google, AWS et Azure font tout pour qu'on leur donne des données, quoi. Ils ont des services qui sont quand même sur étagère souvent, qui donc ont une tendance à... On les utilise parce que c'est plus simple. Voilà. On a quelques sociétés en France, VOVH, Scaleway, Clever Cloud, qui essayent d'héberger des données en France et se battre pour tout héberger en France. Nous, on est clients de Scaleway, par exemple, pour héberger une partie des données en France. Tout ce qu'on processe est en France à Scaleway. C'est un début.
Donc, c'est vrai qu'entre les entreprises, les administrations et les gens de base, les surfeurs en ligne, les problématiques sont un peu différentes et que malgré tout, l'autorité de l'État doit quand même se pencher sérieusement sur ces questions, trouver des répliques quand nécessaire. En cas de dérive.
Ouais, et en cas de dérive, en cas de aussi, il y a eu longtemps en France, on faisait plutôt que mauvais de l'hébergement de serveurs. Donc des serveurs, on ne faisait pas tellement de logiciels. Vous achetez le serveur et c'est à vous de vous débrouiller. Ce qu'ont fait les GAFAM, enfin Google, Amazon, Azure, Microsoft, c'est qu'ils proposent des choses sur étagère. Du coup, on prend un site web presque sur étagère, ou des services comme une base de données sur étagère. Un hébergement sur étagère, et là le mouvement en France commence depuis quelques années avec OVA, Scaleway, Clever Code, à se dire que il ne faut pas qu'uniquement le matériel soit français, mais que l'ingénierie, le logiciel soit français aussi, et évolue dans ce sens-là pour que ça donne, on ait plus envie du coup en tant que développeur d'utiliser ces outils français, et ça soit tout en France. Pas uniquement le matériel, mais aussi l'ingénierie. Il y a vraiment un switch depuis quelques années, et je pense que France 2030, là, le projet qu'ils ont lancé, va dans ce sens-là.
Donc je ne sais pas, il y a une course quand même entre ceux qui tentent de truander et ceux qui protègent. Qui va gagner ?
Qui va gagner ? C'est une guerre constante, en fait. Il faut avoir des outils de sécurité qui permettent de contrer ces attaques qui augmentent, mais je crois que c'est plus 40%. Nous, sur notre trafic, c'est plus 40%. Depuis 2021 par rapport à 2022, c'est plus 40%. Et ils sont de plus en plus malins en essayant d'attaquer progressivement. Ils font des essais. Enfin, ça se maturise. Après, c'est pour ça qu'il faut des solutions comme les nôtres, j'ai envie de dire, pour essayer de bloquer ce type de trafic. Et ça peut arriver un peu n'importe quand.
Donc des solutions comme les vôtres sont bien sûr pensées, imaginées, trouvées par des gens qui ont des compétences. Où est-ce qu'on acquiert ces compétences ?
On a une vingtaine de personnes qui font du coup de la recherche sur comment mieux détecter les bots, les systèmes externes. Donc je pense qu'il y a vraiment des écoles qui forment à ça. Donc on a des ingénieurs qui sont en développement, en machine learning, ou des choses. Voilà, ils ne sont pas de machine learning, mais on va jusqu'à inspecter le code de Google Chrome pour mieux le comprendre et comprendre comment les hackers peuvent modifier Google Chrome lui-même ou essayer de modifier des packages pour détecter. Donc en gros, c'est un peu du terrain, lire des articles, se former tous les jours et se remettre en question tous les jours. C'est un peu, même pour mon métier, moi je m'occupe de tout ce qui est serveur. Comment on intègre nos modules, notre applicatif chez les clients, j'apprends tous les jours parce qu'on supporte 25 technologies et c'est très complexe. C'est compliqué et il y en a des nouvelles tous les jours. Donc c'est un métier où il faut toujours se renseigner, rester à l'écoute et se former sinon...
Alors justement, j'en parlais avec d'autres avant vous dans les interviews. Hein. Le temps consacré à la formation, à l'entretien des connaissances et à la recherche, une sorte de vision en fait de l'avenir, est-ce que c'est dans votre temps de travail ou est-ce que malheureusement... on considère que c'est votre loisir.
Oui, loisir, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai personne. Donc là, je vais parler pour moi. Moi, je sais que je suis passionné, j'adore ça. J'ai quand même du temps pour me former. Regardez, là, je suis ici au DFS Lille. Mercredi, j'étais à la Product Conf, donc sur une conférence sur tout ce qui est plutôt orienté produit. Il y a 3 semaines, j'étais à Wheel of Speed sur tout ce qui est web performance. Donc là, j'en ai fait beaucoup. Mais du coup, ça fait partie de mon temps de travail, de me former, de rencontrer des gens, de discuter. Je lis aussi beaucoup dans le cadre de mon travail. Il me plein de livres, des choses comme ça. Après, parfois, ça m'arrive de le soir de regarder, c'est un sujet qui m'a passionné, j'ai envie de creuser un peu plus, quoi, mais c'est quand même, voilà, c'est, je pense qu'il y a un peu la passion qui prend le dessus. Je le fais modérément, mais je passe un peu de temps aussi le soir ou lire un livre parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe ou des choses comme ça, quoi.
Bah, merci de nous avoir consacré un peu de temps.
Ouais, mais c'était avec grand plaisir.